franceinter.fr.
Bonjour, chers écouteurs.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Pierre Dumayet, le pionnier. Homme de radio à l'origine, il avait fait le choix de la télé alors que la France de 1949 ne comptait que 1200 postes. Avec un brelan de pionnier, il avait fait le pari de créer des émissions devenues exemplaires, Lecture pour tous, En votre âme et conscience, 5 colonnes à la une. Ces derniers temps d'activité ne lui furent plus concédés que des niches, mais il n'en concevait pas de nostalgie puisque rien ne l'amusait davantage que les situations absurdes. À la campagne, il regardait davantage son étang que le petit écran et il reprenait Flaubert, qu'il pouvait lire les yeux fermés. Il lui avait consacré 26 émissions. Flaubert détestait les mardis. Dumayet, qui vient de s'éteindre à 88 ans, est enterré ce mardi 22 novembre 2011 dans son village de l'Aude. Sophie de Closet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne des médias, éditrice, vous avez consacré un livre à Lecture pour tous que je citais à l'instant. Dumayet a été embarrassé à l'idée d'être un objet d'histoire.
Oui, ce n'était pas une perspective qui l'enthousiasmait beaucoup. Quand je l'avais rencontré pour travailler sur Lecture pour tous, il avait toujours plus envie de me parler de Flaubert ou du prochain documentaire qu'il faisait avec Robert Bobert que se replonger dans ses souvenirs. Être un objet d'histoire, c'était entrer au musée et je ne suis pas sûre qu'il en était ravi.
Et moi, je suis embarrassé parce que comment poser des questions qui soient des questions? On est tellement habitué à mettre un point d'interrogation après une phrase déjà constituée. Alors, est-ce que c'est une bonne question de demander pourquoi un homme de radio déjà respecté passe-t-il en 1949 du côté de la télé, c'est-à-dire à l'époque nulle part?
Oui, entrer à la télé en 49, c'est entrer nulle part. Vous l'avez dit, il y a en 1950, 3800 postes de télé en France. Donc pour la bande de jeunes gens dont il fait partie, avec Pierre Desgroupes, qu'il avait rencontré quelques années auparavant, entrer à la télé, c'était entrer dans un espace de liberté incroyable. Parce qu'en fait, la technique avait précédé le contenu. On avait la télé, mais on ne savait pas ce qu'on allait en faire. Donc du coup, tout était inventé. Le pouvoir n'avait pas la clé, en tout cas, à part l'information. On ne savait pas très bien ce qu'allait devenir ce nouveau média. Et donc, du coup, il y avait moyen de s'amuser. C'était quand même un de ses buts dans la vie.
Vous citez Pierre Desgroupes, Pierre Sabag aussi. Et là, pour le premier journal télévisé qui va se démener pour donner à la télévision une importance et même pour obtenir des prix pour ses collaborateurs. Par exemple, Pierre Dumayet qui reçoit en 1952 un prix. Et alors, ce prix lui est décerné par le secrétaire d'État à l'information. C'est à l'époque Raymond Marcellin qui sera plus tard ministre de l'Intérieur. On lui a préparé un discours qu'il a lu dans sa voiture et il répète donc ce speech.
Il est entré en 1949 à Actualité de Paris, pigiste permanent à la radiodiffusion française. Pierre Dumayet, avec un faux air de pasteur méthodiste converti. Par Henri Michaud. J'ignore absolument quel est l'auteur de ce...
Ce n'est pas moi.
Pierre Dumayet apporte une studieuse attention à l'analyse des 1000 ridicules quotidiens qu'il fait entrer dans un recueil vaste intitulé Humanisme. Il collectionne avec une gravité austère les énormités d'une époque qui en fournit d'amples quantités. Il se plaît à retrouver, dans le temps et dans l'espace, les contradictions entre la légende héroïque et la réalité rhumatisante. Possédant un très haut degré de virtuosité, la technique du maniement des épingles, il crève à petits coups légers les outres solennelles de notre temps et il lui arrive de découvrir, ce faisant, des personnages de chair et de muscles qui se trouvent soudain honorés d'être ainsi dégagés de tant de vanité. Voici
la note. Alors Raymond Marcellin citant le discret poète Henri Michaud, c'est quand même un moment inattendu. Il est un collaborateur, peut-être un stagiaire, d'une très grande finesse dans le portrait.
Oui, en effet, parce que à l'époque, Dumayet n'avait pas encore créé Lecture pour tous, 5 colonnes n'avait pas commencé, mais en revanche, il commentait les actualités télévisées. ce qu'on n'appelait pas encore le journal télévisé à l'époque. Et face à ces images qui manquaient de fait un peu de relief, il trouvait toujours le moyen d'être un peu facétieux. Et notamment quand un homme politique canadien était passé en France et en Suisse, il n'avait pas pu s'empêcher de dire que M. Drapeau était de passage à Berne. Et à chaque fois, il trouvait le moyen, de crever ses outres de l'absurde.
Alors vous citez Lecture pour tous, le début c'est 1953, vous avez cité Pierre Desgroupes, nous n'avions pas les mêmes goûts, nous avions du goût l'un pour l'autre. C'est le grand duo de Lecture pour tous.
Oui, c'est le grand duo, ils se sont rencontrés par Jean Lescure quelques années avant à la radio et ils se sont tout de suite rendus compte qu'ils avaient eu le même professeur de philo, M. Perret, ils avaient communié dans le souvenir de ce professeur qui les avait marqués. L'un à Buffon, l'autre à Pasteur. Et en effet, ils étaient très, très différents. Ils avaient souvent des désaccords, mais ils avaient beaucoup de goût l'un pour l'autre. Et leur duo, qu'on a surnommé le tandem de l'intelligence à la télé, a fait merveille à 5 colonnes et à Lecture pour tous.
Il y avait une femme, peut-être, quand même.
À 5 colonnes ?
Non, à Lecture pour
tous. À Lecture pour tous. Ah oui, à 5 colonnes et à Lecture pour tous. Il y avait donc Pierre Desgroupes et Pierre Dumayet. Et il y avait deux chroniqueurs, Max-Paul Fouchet, qui était le poète et fondateur de la revue Fontaine.
Et lui, c'était le one-man show.
Lui qui faisait le one-man show seul face à l'écran. Et puis, il y avait une femme merveilleuse qu'on a un peu oubliée aujourd'hui, qui s'appelle Nicole Védresse, qui était romancière et qui est disparue assez tôt au milieu des années 60. Et qui était une chroniqueuse absolument parisienne, délicieuse et pleine d'esprit.
Une émission littéraire, c'est souvent ceci, parodie de Lecture pour tous par Poiret et Serrault.
C'est ce matin que le trophée Caruso, qui est en quelque sorte le prix Goncourt de la littérature anonyme, a été décerné chez Tintin, le restaurant typique des Batignolles. Nous accueillons ce soir, à Lecture pour tous, l'heureux lauréat, le célèbre Corbeau de Loubignac. Cher monsieur,
appelez-moi maître.
Pardon, cher maître, une partie de votre correspondance anonyme vient de sortir chez Gallimard et l'on considère déjà cette parution comme un événement littéraire de très grande portée.
Oui, oui, certainement. Les critiques, d'ailleurs, les critiques sont unanimes.
Voulez-vous nous rappeler le titre de votre livre ?
Un ami qui vous veut du bien.
Un ami qui vous veut du bien. J'aimerais, voyez-vous, que vous nous lisiez la première épître que vous avez envoyée aux habitants de Loubignac.
C'est ça, oui, c'est... Je vais vous lire la fameuse lettre à Achille Ragano, un riche fermier de la région, avec lequel j'étais brouillé, je le suis toujours du reste.
Oui, il n'y a pas de raison, bien sûr.
Vieille fripouille, si vous continuez à mouiller votre lait, je mettrai le feu à votre maison. Veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Et c'est signé
X. N'est-ce pas, l'X, c'est le pseudonyme littéraire que j'ai adopté en souvenir de mon passage à l'école polytechnique.
Et vous avez été, je le sens, énormément influencé par Paul Claudel.
Par qui ?
Par Paul Claudel.
Jamais entendu parler.
Oui, au principe, une émission littéraire, c'est une émission pour gens cultivés, avec des références pointues, Claudel, Polytechnique.
Oui, de fait, Claudel a été reçu à Lecture pour tous. Mais Lecture pour tous, c'était une émission qui, à la fois, était faite vraiment pour tout le monde et qui s'inscrivait dans cette grande ambition d'éducation par la culture et de démocratie de l'après-guerre, qui c'est le même 53, c'est Lecture pour tous, c'est Livre de poche, c'est aussi l'aventure du TNP de Jean Villard, et tout ça participe du même mouvement. C'est aussi une émission donc qui cherche à parler à peu près tout le monde, à la belle-mère. Pierre Desgroupes disait tout le temps qu'il fallait que la mercière de Saint-Léon comprenne et soit intéressée par tout ce qu'il y avait sur le plateau Lecture pour tous. Mais c'est aussi une émission, contrairement à ce que la parodie qu'on vient d'entendre le laisse entendre, qui n'était pas confite dans la dévotion au grand écrivain. Et d'ailleurs, les écrivains étaient dans une position de vulnérabilité à Lecture pour tous. Parce que Roger Vaillant disait, Dumayet, quand je suis passé à Lecture pour tous les premières fois, Dumayet avait sur moi la supériorité du professionnel sur l'amateur. Parce que la plupart des écrivains, ils n'avaient jamais vu la télé. Ils ne savaient pas ce que c'était qu'une caméra. Ils étaient complètement désarçonnés par juste le dispositif. Alors qu'aujourd'hui, n'importe quel adolescent connaît les codes de la télé. Et donc, du coup, ils se laissaient beaucoup plus faire par Dumayet et Desgroupes.
Enfin, sauf certains qui ne sont pas gênés par un dispositif simple, deux chaises, une table, parce qu'ils sont ascétiques, ou parce qu'ils ont une télé dans leur salon et qu'ils sont félins. François Mauriac, par exemple.
Je voudrais vous poser une toute dernière question, maître. Des romans que vous aimez, des livres que vous aimez, vous dites qu'ils sont habitables. Voulez-vous me dire ce que vous entendez par là ?
Voilà, aujourd'hui, je suis septuagénaire, n'est-ce pas ? Eh bien, je peux dire que depuis 50 ans, j'habite Balzac, et j'habite Dickens, et j'habite Dostoïevski, et j'habite Tolstoï. J'appelle une œuvre habitable, une œuvre dans laquelle j'y entre et j'en sors tout le temps. Moi, je prends un Balzac à chaque instant. Mais par exemple, j'aime profondément Kafka, l'homme Kafka. Mais ses livres, Je les ai lus une fois, mais plutôt crevé que d'y rentrer. Je n'ai jamais envie de recommencer un cauchemar.
Je suis très heureux d'avoir revu cet entretien. Le plutôt crevé que de relire les romans de Kafka est admirable de liberté. Mais moi, je n'ai pas bien fait mon travail. J'aurais dû relancer François Mauriac en lui disant quelque chose comme « Mais il y a des romans de Balzac qui, eux aussi, sont des cauchemars. » Je ne crois pas qu'il y ait chez Kafka un homme ou une femme qui soit plus méchant que la cousine bête, par exemple. Reste que l'idée d'œuvre habitable ou non habitable est bonne, puisque cette expression dit exactement le rapport que le lecteur a avec une œuvre.
Avec son vieux complice Robert Bobert, il avait fait relecture pour tous, où il revoyait et commentait des interviews. On attend d'ailleurs toujours que les télévisions de service public, deux d'entre elles l'ont financé il y a quelques années, le diffusent. C'était un bon client, comme on dirait aujourd'hui dans le langage du service public et du
Mauriac.
Et des médias privés. Mauriac, un Mauriac. Bon client.
Oui, au sens actuel, c'est sans doute un bon client parce qu'il était rompu à l'exercice, il connaissait la télé, il aimait beaucoup ce nouveau média qui l'amusait et il aimait quand Pierre Dumayel lui lançait des phrases de ses œuvres à la tête parce que c'était la façon dont Pierre Dumayel concevait ses entretiens avec les écrivains. Le livre était un dossier d'instruction et les phrases étaient lancées comme des questions pour déstabiliser les écrivains. Et Dumayel s'en amusait, et Mauriac, pardon, s'en amusait beaucoup. Mais le bon client à l'époque pour Pierre Dumayel, c'était l'inverse de ça. Le bon client, pour lui, c'était celui qui arrivait à être maître de son silence, parce que Dumayel en jouait beaucoup. Il posait une question, l'interlocuteur répondait, et puis là, Dumayel n'enchaînait pas. Il laissait s'installer un silence qui devenait insupportable à son interlocuteur, qui du coup se disait, bon, ben, j'ai mal répondu, et qui disait quelque chose qu'il n'avait pas prévu de dire. Et c'était là où, pour Dumayel, la conversation devenait vraiment intéressante, parce que la réponse était inattendue. Et ceux qui étaient maîtres de leur silence, comme Françoise Sagan ou André Schwarzbart, c'était ceux qui résistaient à ce procédé-là et qui étaient les plus intéressants pour Dumayel.
Enfin, il n'y avait pas de clients, ni d'un côté ni de l'autre, il n'y avait que des personnes. On entendait Mauriac. Mauriac, dans ses critiques de télévision, était admiratif de l'autre grande émission que co-crée Pierre Dumayel avec Pierre Desgroupes toujours et Pierre Lazareff. Que d'idées à eux trois, disait François Mauriac.
Pierre Lazareff, Pierre Desgroupes, Pierre Dumayet et Igor Barrère vous proposent 5 colonnes à la une.
Le troisième Pierre, Pierre Lazareff, qui domine d'ailleurs les deux autres Pierre.
Bien sûr. Oui, qui a permis d'inventer le format de 5 colonnes à la une, fort de l'homme de presse qu'il était, qui était très important à l'époque. Et les trois pierres qu'on surnommait les papas dans le milieu, le visionnage des sujets que les reporters apportaient tremblants pour l'émission mensuelle de 5 colonnes était toujours l'objet de grande angoisse, parce qu'ils avaient un regard totalement impitoyable et qu'ils arrivaient à... Ils ont eu la prescience de savoir ce que devait être le reportage à une époque où ça n'existait pas.
Et la télé devient très importante. Un jour, un téléspectateur demande à Pierre Lazareff, pourtant patron de François, mais Desgroupes et Dumayet, on sait ce qu'ils faisaient avant, puisqu'on les avait vus à la télé. Et vous, monsieur Lazareff, qu'est-ce que vous faisiez avant? Et Igor Barrère, les trois pierres, il y a un quatrième. Il y a un réalisateur. C'est important, le réalisateur, pour Dumayet. Très.
C'est très important. Igor Barrère était important, comme Jean Prat était important pour Lecture pour tous. Parce que, justement, c'était un pionnier au sens où il avait compris que la forme et le fond à la télé étaient totalement indissociables et qu'on disait les choses par la manière dont on les filmait et dont on les représentait. Il y avait aussi Eliane Victor à 5 colonnes à la une.
Il y avait une femme ?
Il y avait une femme, oui.
Alors, les personnages de Pierre Dumayet les plus divers, une femme infidèle, Sophie de Closet, un homosexuel, le chat d'Iran.
Oui.
Infidèle à sa femme.
Oui, le chat d'Iran, il était allé l'interviewer et Dumayet regrettait de ne pas avoir pu filmer tout ce qui se passait, tout l'environnement qu'il y avait autour du reportage, parce que notamment, il y avait en permanence des photos du chat d'Iran partout et à côté des photos de la princesse Soraya. Et puis, le couple ayant connu des difficultés, les photos de Soraya avaient disparu, mais il restait le clou tout seul à côté de la photo du chat d'Iran et il avait beaucoup regretté de ne pas avoir pu filmer tous ses à côté qui en disaient plus que l'interview un peu compassée qu'il avait fini par ramener d'Iran.
La dame au volant, la champrineuse, et puis ici, dans un café des Batignolles, il avait une affection pour les cafés. Il interroge des blousons noirs.
Pilule est le chef de la bande des blousons noirs des Batignolles, dont un quart environ se trouve en liberté surveillée.
Depuis combien de temps tu es dans la bande?
3 ans, 4 ans.
Mais avant, il y en avait déjà
une? Oui, mais la bande à Charlie.
Tu l'as connu, toi?
Oui.
Vous êtes combien, là?
20aine.
Quel âge as-tu? C'est toi le plus vieux?
Non, c'est pour moi le plus vieux. Moi, j'ai 19 ans.
Quel âge as-tu le plus vieux?
Le plus vieux, là, elle va sur 20.
Et le plus jeune?
Le plus jeune,
Je vais avoir 15 ans.
Qu'est-ce que tu faisais avant?
J'étais chez ma mère.
Et puis tu es parti?
Non, elle m'a viré.
Comment ça?
Oh, bah, elle avait un jus, elle m'a foutu à la lombe.
Et comment ça s'est passé?
Quand elle m'a viré?
Oui.
Oh, bah, ça faisait déjà 2-3 jours qu'elle me donnait pas à bouffer, alors j'avais demandé une avance sur ma paye.
Oui.
Puis, juste quand je rentre, j'avais mon avance. Je suis rentré, quoi, j'étais habillé, elle me dit fous-moi le camp. Alors j'ai pris la porte, je me suis barré.
Qu'est-ce que tu as fait?
Je me suis barré dans Paris, quoi. Tout au mois de janvier, alors il faisait un peu froid. Puis ça a fait ça pendant 5-6 jours. Puis ensuite, c'est un lundi, quoi. Là, on m'a retrouvé de quoi coucher. Alors j'ai couché là chez des personnes, je sais pas si tu m'as amouré, là. Le
tribunal qui t'a passé?
Ouais, le tribunal. Ils m'ont gardé pendant 2-3 mois, mais alors là, ça n'allait pas. Il y avait des fils et des filles à la messe tous les dimanches chez Rovep, alors c'était pas mon genre, ça.
Ce sont les questions très précises, presque sèches. C'est pas un gentil.
Non, c'est pas son propos d'être gentil. L'empathie, tenir la main des gens qui l'interviewent, c'est pas ça qui intéresse Pierre Dumayet. Ce qui l'intéresse, c'est l'effet de réel qui va être provoqué chez le spectateur ou chez le téléspectateur à partir de ses conversations et de ses interviews.
Il y a un billard dans son appartement sur lequel il pose ses livres et on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il est un acrobate du billard. Vous savez, celui qui est immobile mais qui joue des parties à 3 bandes.
Oui, il avait toujours cette... Moi, il m'évoquait un gros chat matois avec sa pipe et ses yeux bleus. Il bougeait pas et en même temps, il était incroyablement vif et aux aguets. Et n'importe laquelle des réactions de ses interlocuteurs, il sautait dessus. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, Mauriac, qu'on a évoqué, l'appelait ce diable du Maillet ou que d'aucuns l'appelaient le procureur des lettres.
Alors, surtout si l'interlocuteur était un homme de pouvoir, les relations avec le pouvoir à lecture pour tous, ça n'avait pas été facile parce qu'on se heurtait à des questions liées à la guerre d'Algérie.
Bien sûr. C'était la guerre d'Algérie, il n'était pas question d'en parler de façon frontale. Max-Paul Fouchet, qui avait signé le manifeste des 121, avait arrêté de participer pendant plusieurs années à l'émission. Et Dumayet disait que bien sûr, il était hors de question d'inviter, par exemple, Henri Allègre, l'auteur de la question. Mais à la fois, c'était un regret et en même temps, il disait, bon, bah, dans ce contexte, si on avait dit, si c'est comme ça, on ne fait plus l'émission, bah, juste, on n'aurait plus fait l'émission. Donc, il y a un moment où... prendre ses responsabilités. Donc il essayait d'en parler, mais de façon détournée.
À 5 colonnes, on affronte la question de la guerre d'Algérie avec crânerie. Et quand l'émission revient sur ce qu'elle a fait en la matière, voici ce que déclare Pierre Dumayet.
De 1959 à 1963, les équipes de 5 colonnes sont allées 20 fois en Algérie. Fallait-il, en raison même des souvenirs pénibles et parfois très pénibles qu'évoquent ces reportages, en raison même de la force de certains de ces témoignages, fallait-il ne pas vous les montrer à nouveau, fallait-il vous les cacher? Nous avons hésité. Finalement, nous avons posé la question à un homme que, pour rien au monde, nous voudrions choquer. Ce médecin d'Alger que Roger Louis intervieva au lendemain du putsch de 1961. Cet homme, ce médecin, vit à Paris maintenant, il exerce à Paris. Nous lui avons montré les documents que nous avions choisis pour cette partie de la rétrospective algérienne. Il a été très ému, bien entendu. Mais après l'avoir vu, il nous a dit, à mon avis, il n'y a aucune image à retirer. Alors les voici.
C'est drôle, on ne va pas chercher un expert à l'époque. On va chercher un médecin qui a été le témoin des événements.
Oui, parce que ce qui est intéressant dans Lecture pour tous, dans 5 colonnes, c'est d'ouvrir une fenêtre sur le monde, de montrer la réalité. Et il faut bien se rendre compte qu'à l'époque, la chape de plomb qui pesait sur ce qu'on pouvait dire à la télévision, le rédacteur en chef du journal télévisé, c'était le ministre de l'Intérieur, de l'Information et de l'Intérieur. On ne pouvait absolument rien dire. Et donc, du coup, juste le fait d'aller filmer en Algérie, d'aller montrer ce qui se passait, était déjà un acte de liberté et courageux.
C'est facile. Et on racontait l'histoire, ouais. Sophie de Closet, avec quelqu'un qui avait été traversé dans son histoire par l'histoire. Le médecin, par exemple.
Bien sûr, le médecin, mais aussi... On pourrait aujourd'hui avoir un regard un peu faussé, rétrospectif, en se disant, ils n'ont pas dénoncé la torture, ils n'ont pas dénoncé tout ce qu'on savait. Mais ça n'aurait pas été possible. Déjà, montrer le témoignage et la réalité du vécu des gens de l'époque, était quelque chose d'inouï qui expliquait que Saint-Colonne en a une, et ben, quand c'était diffusé, la France s'arrêtait, quoi.
Mais est-ce que 68, Saint-Colonne en a une va être en sursis après les événements, Lecture pour tous va s'arrêter, Lecture pour tous qui était déjà un peu usé, vous le racontez dans votre livre, tout le monde avait le même âge, tout le monde avait raison, c'était bien, mais 68 disait oui. Maillet, et puis finalement
après, tout le monde a eu tort. Oui.
Alors commence pour lui une époque de rendez-vous moins régulier, il va s'installer dans les situations les plus diverses, nourri par l'imagination, il va même être dialoguiste d'un film, 1971, c'est Mourir d'aimer. Un film d'André Cayatte sur l'affaire Gabrielle Russier, une professeure qui aimait un élève mineur. Je parle de situations qui remontent à la plus haute antiquité, Carmela Epicaneo et Paco Ibáñez.
De l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Dialoguiste de films, ici Cayatte, Mourir d'aimer, mais il y a aussi les films de Christian de Challonge, Malville. Bientôt, il va enfin pouvoir devenir écrivain, mais à la télévision, alors, dans les années 70-80, Sophie de Closet.
Alors, à la télévision, dans cette période-là, il s'éloigne de la formation pour se consacrer à ses passions, l'interview et la littérature. Du côté de l'interview, il invente un dispositif assez audacieux dans les années 70, une émission qui s'appelle « Questions sans visage », où en fait, l'invité, il ne sait pas qui est l'invité de l'émission, qui est dans un studio mitoyen au sien. Il y a 100 questions qui sont préenregistrées et à partir des réponses de l'invité, du Maillet doit deviner de qui il s'agit.
Le même principe est appliqué à la radio, 100 questions derrière un miroir. Le voici expliqué par Pierre du Maillet lui-même.
Question sans visage. Oui. L'invité que j'attends va s'installer dans la cellule d'à côté. Cet invité, je ne sais pas qui il est. À ma demande, mes camarades Alfonsi, Penaud et Tarta m'ont caché son identité. Quand il sera dans sa cellule, je ne le verrai pas, car son image sera brouillée, comme la mienne l'est en ce moment.
Sa voix sera brouillée, comme l'est peut-être la mienne en ce moment. Mais vous, rassurez-vous, vous entendrez assez rapidement
sa vraie voix, et vous verrez assez rapidement son image. Quant aux questions que je poserai, à vrai dire, ce n'est pas moi qui les poserai, c'est le hasard. Nous avons là-haut, en régie, 100 questions enregistrées, numérotées de 1 à 100, et notre invité les obtiendra en demandant un numéro, le 33, le 77, etc. Voilà.
96.
Vos colères vous inquiètent-elles ?
Mes colères m'inquiétaient beaucoup.
La colère est une manifestation du tout petit bébé. Donc j'essaye maintenant de me conduire comme un grand garçon. Il était temps.
Mais qu'est-ce que vous vous dites pour vous empêcher d'être en colère, là ? Je repense simplement à ce qu'est la colère. Je me mettais très souvent en colère. Je crois que ce métier est quand même assez terrorisant quand on le fait. Et que très souvent, la colère est un défoulement, c'est une manifestation de la peur intérieure.
Mais qu'est-ce que c'est que ce métier ? C'est quoi ? Vous êtes comédien ?
Oui, entre autres.
Et vous n'êtes pas Jacques Martin ?
Dois-je vous répondre ?
Là, Jacques Martin avait relativement joué le jeu, c'est-à-dire qu'il avait quand même donné des indices pour que Pierre Dumayet trouve son identité. Mais Pierre Dumayet m'avait dit qu'il était fou de rage d'un invité qui avait saboté son dispositif dès la première question. C'était Gaston Defer, et qui avait trouvé tiré au sort comme question « Quelle heure est-il » et qui avait répondu « Édile d'une grande cité phocéenne, je peux vous dire qu'il est 15h30 ». Et donc Dumayet était fou en disant « Bon, ok, bonjour Gaston Defer ». Et tout son dispositif était complètement ruiné.
Dites-moi, Gaston Defer, futur ministre de l'Intérieur, était installé dans une cellule. L'invité dans une cellule, c'est un juge d'instruction en fait, Dumayet.
Oui, c'est un juge d'instruction. Jérôme Garcin dit d'ailleurs que ses interviews ressemblaient à des gardes à vue. Et lui-même, Dumayet, disait que les livres étaient des dossiers d'instruction. Donc il y avait quelque chose comme ça. Mais dans Question sans visage, c'était des cellules qui ressemblaient aussi à des divans de psychanalystes, vu les questions qu'il posait.
À la même époque, grande émission, Lire, c'est vivre, qui naît en 76, Le Petit Prince vu par des enfants, Germinal vu par des mineurs, La Bête humaine par des cheminots, bien sûr, et L'Assommoir dans un bistrot. Il affectionnait les bistrots, le juge d'instruction Dumayet.
Il s'agit de Madame Bouger, là, qui est très gentille avec Gervaise, mais qui n'aime pas beaucoup, dans le fond, Coupeau. Elle trouve qu'à ce moment-là, Coupeau tourne mal. Et Zola dit qu'elle ne pardonnait surtout pas aux zingueurs d'avoir refusé d'apprendre à lire pendant sa convalescence.
C'est justement, on était dans le même cas.
Vous avez appris à lire comment, alors?
Avec l'un, avec mes enfants, quand je les vois, puis un papa regarde ça, puis c'est tout doucement, puis je me suis mis à me mettre avec eux. C'est pour ça que j'arrive à lire à peu près couramment maintenant.
Question que je voudrais vous poser quand même, là, parce que ça m'embête de vous avoir fait lire un livre, si ce premier livre vous a pas donné envie d'en lire d'autres.
Ah oui, ça, je comprends bien, c'est pour le lire toujours à deux.
Non, c'est pas ça que je veux dire. Vous l'avez lu avec votre femme?
Oui.
Est-ce que ça vous a donné envie d'en lire un autre?
Non.
Non,
non. Pour moi, c'est assez fatigant à lire. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être que j'aime pas ça, je ne sais pas. Mais la lecture, pour moi, c'est pas mon petit désir.
Oui, l'idée de Dumayet, c'est de raconter comment une histoire naît du contact avec un livre. Et là,
oui, il était passé des écrivains à la lecture en elle-même. C'était ça qui l'intéressait dans la dernière partie de sa carrière. Et dans la même émission, il fait lire aussi le livre à un patron du bistrot, un patron. Et le seul mot qu'il a souligné, c'est le mot gigot. Et Dumayet lui dit mais pourquoi gigot? Et il lui répond parce que ça provient que les ouvriers, ils mangeaient déjà du gigot à l'époque. Et ça l'avait fait beaucoup rire.
L'idée, c'est d'interviewer le livre au fond.
Oui, l'idée, c'est de toute façon, l'idée pour lui, c'est la lecture. C'est la grande histoire de sa vie, c'est la lecture. Lire pour lui, c'était avoir une seconde vie. Et cette seconde vie-là a été au moins aussi riche que l'autre.
Une bonne dizaine de livres, à l'humour très elliptique, discret pour la plupart d'entre eux.
Oui.
Peut-être moins autobiographie d'un lecteur qu'on trouve en livre de poche.
Oui, qu'il avait fait paraître en 2000 et où donc qui est consacré à cette deuxième vie, celle de la lecture.
Mais il ne se fait aucune illusion, ni sur l'effet de la littérature, ni encore moins sur l'effet de la télévision. Qu'est-ce qu'elle est devenue d'ailleurs, la mercière de Saint-Léon, celle qui était référence avec le pompier de service
La mercière de Saint-Léon,
pour faire les émissions.
La mercière de Saint-Léon, elle est sondée, elle est mesurée. On l'appelle la ménagère de moins de 50 ans maintenant, et c'est rien de dire qu'on ne l'a pas oubliée à la télévision.
Elle a été aveuglée par le bling-bling, et puis Dumayet disait qu'elle était sourde, qu'elle était devenue peut-être
qu'elle
un peu
sourde. Qu'elle était sans doute devenue un peu sourde et aveugle, oui.
Le ton d'ailleurs lui-même est sourd, le ton de Dumayet. Cette nonchalance et cette précision en même temps.
Mais c'est cette espèce aussi de solidité inébranlable face à ce qui se passe autour de lui. Il était toujours un peu ailleurs et toujours un peu décalé. C'est de ça peut-être que lui venait cette espèce de grand calme et de grand amusement face au monde.
Alors quelques recommandations, Sophie de Closet, pour finir votre livre sur Lecture pour tous. On trouve la référence sur notre site, Autobiographie d'un lecteur. Un appel à France 5 qui a co-financer naguère Relecture pour tous et qui pourrait le diffuser. Et puis un beau livre s'appelle Le Parloir. Et c'était le juge d'instruction au parloir. Oui. Seulement des disciples et la Saint-Fidèle de Pierre Dumayet au générique de la marche de l'histoire, Jacques Sigal, Meryl Moneghetti qui a préparé cette émission avec Franck Olivard et Frédéric Martin et à la technique aujourd'hui de Phare Guéride et Maximana. Chez Mathieu Vidard, dans un instant, les eaux humains, ça nous ramène à l'époque de l'exposition coloniale de 1931. Et nous, on ira un peu plus loin dans le temps, ou un peu plus avant, plus exactement dans le temps. Il est 14h, vous écoutez France Inter, on parlera de Radio Brazzaville de 40 à 44.